9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Dernière nouvelle du virus, un traitement à la chloroquine qui fait plus de mal que le bien, l'annonce prématurée d'un vaccin d'ici la fin de l'année, mais aussi des indicateurs à la baisse en France, des foyers épidémiques qui naissent presque tous dans des espaces clos, et l'hypothèse qu'une partie de la population n'est pas sensible au Covid, qu'elle bénéficie d'une immunité naturelle ou acquise par un autre virus. Les réponses et les incertitudes de l'épidémiologiste Dominique Costagliola, ma première invitée dans un instant. La surprise Merkel, avec le plan franco-allemand pour renflouer l'Europe, la chancelière a accepté ce qu'elle avait toujours refusé, une mutualisation de la dette au profit des pays européens les plus en difficulté. On va mesurer la portée de cette révolution et ses chances d'aboutir avec deux spécialistes des questions européennes, la journaliste Marion Van Rentergem et le professeur à Sciences Po, Sylvain Kahn. Enfin, le chagrin, Piccoli, acteur prodigieux, homme généreux. Jean-Claude Carrière, le scénariste de Belle de Jour ou de Milou en mai, nous racontera le Michel Piccoli qu'il a connu. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Dominique Costagliola.
Bonjour.
Épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. D'abord, cette étude importante publiée hier dans The Lancet sur près de 100 000 patients hospitalisés à travers le monde, 15 000 traités à la chloroquine ou à l'hydroxychloroquine, seuls ou associés à un antibiotique dans les 48 heures suivant leur diagnostic. Résultat, aucun bénéfice, mortalité accrue et risque aggravé d'arythmie cardiaque. Que retenez-vous de cette étude ?
D'abord, il faut se souvenir que c'est une étude observationnelle, donc ce n'est pas un niveau de preuve aussi fort que si c'était les résultats d'un essai clinique. Néanmoins, elle pointe vers un effet délétère finalement de l'hydroxychloroquine, au-delà même de son effet cardiaque, hein, parce que l'effet sur la mortalité est au fond pas seulement lié à l'effet sur les problèmes cardiaques. Et moi, c'était quelque chose que je craignais depuis le départ, c'est-à-dire pas seulement que ça ne servait à rien, mais que ça pouvait être délétère, comme ça avait été le cas quand on l'a utilisé dans le chikungunya.
Les auteurs de l'étude suggèrent de stopper immédiatement les prescriptions d'hydroxychloroquine hors essais cliniques, essais dont on sait qu'ils sont toujours en cours. Qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense qu'une évaluation va être conduite par le Haut Comité de Santé Publique. On va voir dans quel sens ils vont. C'est sûr qu'il faut que l'utilisation soit extrêmement encadrée, extrêmement surveillée. Et dans la mesure où on n'a montré aucun effet bénéfique, on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à continuer à l'utiliser en dehors du cadre des essais qui permettront de voir si oui ou non, au final, il y a quand même une catégorie de patients pour lesquels ça pourrait être utile.
Cette semaine,
aussi,
oui, je vous en prie.
Il faut bien voir aussi que, en fait, un des problèmes particuliers, c'est que la maladie elle-même, Covid, elle accentue les problèmes cardiaques. Elle crée des problèmes cardiaques chez les gens. Et quand on rajoute deux médicaments qui eux aussi ont une toxicité cardiaque, il est probable que la toxicité de cette combinaison est supérieure à ce qu'elle aurait dans le cas d'une autre maladie. Et c'est ça quelque chose auquel les gens n'avaient pas réfléchi quand ils ont fait cette proposition.
Les défenseurs du traitement disaient dès hier, mais cette étude porte sur des patients hospitalisés et non pas sur des malades qui ressentent le premier symptôme à qui on pourrait administrer un traitement. C'est une objection valable selon vous ?
Bah en fait, dans cette étude, ils ont choisi de ne prendre en compte que des personnes qui avaient reçu le traitement moins de 48 heures après le diagnostic. Donc de toute façon, extrêmement précocement après le diagnostic. Ouais. C'était justement la recommandation qui était faite par l'équipe de l'IHU de l'utiliser chez les gens au tout début de la maladie. Vous voyez, on ne peut pas donner le traitement avant que les gens soient diagnostiqués. Dans les 48 heures, c'est vraiment le tout début et c'est plutôt plus précoce que dans les études qui ont été conduites à Marseille.
Cette semaine, Dominique Costagliola a également été marquée par les annonces de la firme américaine Moderna sur les premiers essais cliniques de son candidat vaccin. 8 des 45 volontaires vaccinés en phase 1 ont développé une réponse immunitaire, ça a été dit dans un communiqué de presse. Encourageant ou prématuré ?
Disons, c'est un peu ce qui était attendu. C'est sans doute une annonce par ailleurs prématurée. On sait très très bien, quand on recherche un vaccin, que c'est pas parce qu'on est en train de faire des essais de phase 1 ou même qu'on montre une certaine capacité à faire développer des réponses immunes chez les personnes qui reçoivent le vaccin, que ça donnera forcément lieu à un vaccin à la fin. Dans l'infection à VIH, qui est la maladie sur laquelle je travaille, eh bien, on a eu déjà à de très nombreuses reprises des essais de phase 1 encourageants. Néanmoins, plusieurs dizaines d'années après le début de la pandémie, eh bien, on ne voit toujours pas de vaccin poindre.
Oui, c'est l'expérience du VIH, hein, de la course au vaccin contre le sida qui vous rend prudente.
Absolument. Mais d'une façon générale, quelle que soit la maladie, le fait d'avoir des tout premiers résultats sur un essai de phase 1, on s'attend bien à ce que parmi la centaine de candidats qui sont en train d'être étudiés dans le monde, il y en ait quelques-uns qui passent l'étape de la phase 1. Mais après, pour arriver jusqu'à être un vaccin qu'on commercialise, il y a encore énormément de haies à franchir et on n'est qu'au tout début de la course.
Ouais. Quelle est la haie décisive? C'est la phase 3, c'est le moment où on teste le candidat vaccin sur des milliers de patients?
Oui, et avec quand même la nécessité d'avoir aussi pu montrer l'innocuité du vaccin. C'est ça qui va être également un enjeu extrêmement important. Et donc c'est ça qui va être crucial. Il faut qu'il soit à la fois immunogène, capable de faire produire les bonnes réponses immunes à l'organisme, mais sans avoir d'effet délétère, parce qu'un vaccin, par définition, doit avoir une balance bénéfice-risque avec des risques extrêmement petits, puisqu'on l'administre à des gens qui vont bien.
Bien sûr. Dominique Costagliola, vous restez avec nous au moment où on déconfine les lieux de culte et un peu plus tard les bureaux de vote. Je voudrais que vous nous disiez ce qu'on sait des lieux de contamination du virus. À tout de suite après une courte pause.
Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola, à l'issue d'une deuxième semaine de déconfinement en France, où tous les indicateurs restent à la baisse, mortalité, réanimation, urgence, est-ce que c'est encourageant ou est-ce que c'est encore le résultat du confinement ?
On commence juste à être au moment où on va pouvoir observer ce qui est lié au post-confinement, puisqu'on sait que l'hôpital, c'est 2 à 3 semaines après le fait d'être infecté, puisqu'il faut un certain temps d'incubation pour développer des symptômes et pouvoir être diagnostiqué. Et ensuite, c'est seulement en cas de forme sévère qu'on est hospitalisé. Et les décès, c'est encore plus à distance. Donc on commence tout juste à pouvoir voir les premiers signes qui seraient vraiment la suite du confinement, et notamment plutôt en regardant les données de consultation de SOS médecins, des médecins généralistes et en partie aussi les urgences.
Donc réponse dans les prochains jours?
Oui, plus probablement dans la semaine qui vient ou dans les 2 semaines qui viennent.
Est-ce qu'il est possible, comme le suggèrent certains de vos collègues, qu'une partie de la population ne soit pas sensible à ce virus, qu'elle soit immunisée après avoir été exposée dans le passé à d'autres coronavirus, ce qu'on appelle une immunité croisée?
Je pense que les gens font cette hypothèse basée sur des observations de contamination dans des lieux confinés, comme par exemple à bord des bateaux de croisière. Mais si on prend justement un exemple de bateau qui n'est pas un bateau de croisière, le Charles de Gaulle, là en revanche on voit que 60% de la population a été infectée. Dans le premier bateau de croisière qui était dans le port de Yokohama, c'est seulement 20%. Donc je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont bâti cette hypothèse. Mais je ne comprends pas pourquoi les personnes du bateau de croisière de Yokohama n'auraient eu que 20% de taux d'attaque, donc de nombre de personnes finalement infectées à la fin, et pourquoi ça serait 60% dans le Charles de Gaulle. Je pense que même si ce sont des quasi-expérimentations, à la fin on finit par prendre des mesures qui font qu'on n'observe pas l'évolution naturelle. Et à bord du Charles de Gaulle, on voit que finalement près de 60% de la population a été atteinte. C'est à peu près l'épure de ce qui est attendu quand on parle d'immunité grégaire pour arrêter la circulation du virus.
Question aussi, Dominique Costagliola, sur le mode de transmission. Une série d'études montre que la grande majorité des contaminations se produit dans des lieux clos, des espaces confinés, éventuellement mal ventilés, pendant une ou plusieurs heures. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'on est en train de voir que la diffusion de l'épidémie et le fait qu'elle devienne vraiment avec une croissance exponentielle est liée à des événements de super diffusion. Ça peut être comme le patient anglais au contamine Montjoie qui a contaminé énormément de personnes, mais ça peut être aussi effectivement des réunions en lieu clos qui durent plusieurs heures où les gens échangent de façon étroite, comme la réunion évangélique par exemple, ou bien comme des épisodes qui ont été décrits de chorale et probablement aussi dans les transports en commun. Donc pour la plupart d'entre ces événements, on est maintenant dans une situation où leur probabilité est extrêmement faible puisqu'on interdit les rassemblements, les salles de spectacle ne sont pas ouvertes, etc. etc. Finalement, le seul lieu possible qui a repris, c'est les transports en commun, mais là aussi avec des mesures de distanciation et des mesures barrières qui doivent limiter la probabilité que des événements de super diffusion se produisent et ne réemballent l'épidémie.
Oui, mais il y a aussi des foyers de contamination dans les abattoirs, dans des usines de viande, et cela dans de nombreux pays à travers le monde.
Ou dans des foyers, comme on a vu là à Tours récemment, un foyer étudiant, enfin, tous les endroits où effectivement on a de nombreuses personnes, un milieu confiné et probablement des mesures barrières qui ne sont pas bien respectées. Alors ce qui change quand même par rapport à ce qu'on a vu au début de l'épidémie, c'est que maintenant on va faire des tests, aller regarder là où les personnes travaillent et dans leur entourage et essayer de briser finalement ces chaînes le plus tôt possible après leur début. Et donc on a une vigilance, je pense, particulière par rapport à ces événements. C'est ça qui nous laisse une chance que ça puisse ne pas repartir.
Des espaces clos, donc avec beaucoup de monde en contact prolongé, c'est le risque majeur. Et donc en extérieur, dans des lieux ouverts, en milieu naturel, est-ce qu'on peut dire que le risque est minime ?
On ne sait pas bien le quantifier. Il est certainement beaucoup moindre, mais on ne saurait pas dire si c'est un facteur 100 ou un facteur 50. Ça, je pense que quantitativement, on ne peut pas l'estimer. Mais c'est sûr qu'il est certainement beaucoup moindre.
Mais ça pose aussi des questions sur les mesures, les règles sanitaires qui sont aujourd'hui en vigueur en France, où on rouvre des centres commerciaux, des lieux de culte aujourd'hui même, demain des bureaux de vote, mais où on laisse encore fermer un certain nombre de parcs et jardins publics.
Oui, ça c'est sûr qu'on ne comprend pas bien la logique qui sous-tend ces mesures, et je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion autour de ça. Les lieux fermés, quand même, ce qui pose problème essentiellement, c'est quand on y est pour des durées longues. Donc je pense par exemple au bureau de vote. Je crois que pour les votants, c'est pas tellement un problème. Le problème est plus de comment on garantit des mesures barrières, de l'aération et que ce soit pas un milieu fermé pour les assesseurs. C'est plutôt de cette façon-là. Et bien sûr, dans les parcs et jardins, cet espace-là, à condition qu'il n'y ait pas une trop grande densité de population, il n'est certainement pas plus dangereux que d'être dans la rue. Vous voyez, c'est pas le fait d'être dans un parc versus être dans la rue, le risque est quand même le même. Ce qui compte à chaque fois, c'est la densité de population. Donc il suffirait de pouvoir réguler cet aspect-là pour que ça ne pose pas plus de problème que l'autorisation que l'on a de marcher dans la rue.
S'il n'y a pas, évidemment, d'attroupement. Merci beaucoup, Dominique Costagliola, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, d'avoir été en ligne avec nous ce matin.